On vous l'avait promis au début de l'émission, le retour à Boulevard 102.1. On vous avait promis qu'on avait une émission qui était bien équilibrée pour vous aujourd'hui. Évidemment, on parle d'actualité, on est une radio parlée après tout. Puis il y a des grosses nouvelles aujourd'hui. Il y a des nouvelles qui sont vraiment moins le fun à lire, à entendre et même à vous livrer en ondes. Ce pourquoi c'est important pour nous, d'arriver avec quelque chose d'un peu équilibré, vous amener un peu ailleurs. Et dans ce qui retient l'attention, évidemment, dans les derniers jours et qui va continuer à retenir l'attention dans les prochaines semaines, c'est la Coupe du monde de soccer en ce moment. Il y a une effervescence, clairement, qui se fait sentir. Je ne sais pas, vous, les filles, autour de vous, si vous en entendez parler. Moi, j'avais hâte de voir à quel point ça allait fonctionner. Moi, je suis obligé d'admettre que oui, j'en entends beaucoup parler. Je suis allé au Grand Marché mercredi parce que c'était un des seuls endroits de la ville qui était ouvert. Il y a un espace FIFA au Grand Marché. Il y avait des chars aux pieds carrés, des chars lettrés. Il y a des gens qui se sont achetés des drapeaux en plastique Brésil, puis ils ont mis ça, ils ont collé ça sur le hood de leur char. Il y a des drapeaux de tous les pays. C'est tellement beau à voir aller. Nous, on connaît ça un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, j'ai un ami à moi, Andy Cerqueira, qui est en studio avec nous, qui, lui, connaît ça pas mal, puis on va en jaser un peu avec lui dans les prochaines minutes. Salut, Andy.
Yes, salut, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci de l'invitation.
Quand tu parles de soccer, quand tu parles de foot, tu as des étoiles dans les yeux. Nous, on a eu la chance d'en parler ensemble avant même que la Coupe du monde débute. Je veux présenter Andy parce que c'est un humoriste. On dit humoriste de la relève, mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'il fait de la scène. Un gars qui est excessivement talentueux, très, très drôle. Si vous avez la chance de le voir dans une soirée à Québec, sautez là-dessus. On était dans une soirée ensemble à la Ninkasi. Puis je me souviens qu'à la fin du show, tu m'as dit « Faut que je m'en aille. Il y a un match de soccer qui est à une heure qui n'est pas complètement ridicule. Je veux m'en aller pour écouter ce match-là. » Puis là, ça m'a rappelé l'espèce d'effervescence qu'on avait déjà vécue dans des Coupes du monde dans le passé, parce que j'ai travaillé en restauration pour des Français, pour des Italiens. Puis quand c'était la Coupe du monde, eux, ils devenaient complètement fous. Mais là, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a un phénomène, étant donné que c'est quand même ici, aux Amériques, que ça se déroule.
Il y a ça. Il y a le fait aussi là, que, justement, avant, c'était comme des petites cellules de fêtes qu'on se faisait. Tu sais, les Italiens vont être d'un côté, dans un bar.
Ça y allait par les nations.
Ça y allait par les nations.
Il y avait moins de matchs aussi. Il y avait moins de nations qui participaient. Ils étaient plus visibles, ceux qui étaient bons.
Il y avait ça aussi. Puis là, cette effervescence-là, elle est partout. À Québec, là, on se promène, tous les bars, tous les pubs montrent les matchs. Il y a 4 ans, ça faisait longtemps que le Canada ne s'était pas qualifié. Et malgré ça, c'était pas tous les endroits qui présentaient les matchs. Maintenant, tout le monde présente les matchs.
Le fait qu'il va avoir son espace pour regarder les matchs dans le parc de la francophonie, on sait ça en début de la semaine passée.
Ouais. C'est la folie, puis c'est une bonne façon de relier les deux, parce que tout à coup, ça se peut que le FEC puis la Coupe du monde se fasse compétition, pourquoi pas amener la Coupe du monde au FEC, tu sais. Puis ça fait en sorte là, que cette effervescence-là, elle montre que c'est bienvenu d'afficher nos couleurs partout. Et là, que je parlais de petites cellules où on fêtait, mais là, maintenant, c'est partout à Québec. Je vais me promener, mettons, avec mon chandail du Portugal ou mon chandail du Canada, et tout le monde va savoir pourquoi j'ai ce chandail-là.
Ah, t'es bi-équipe, toi?
Bi-équipe. Curieux du soccer.
T'es curieux du soccer? J'aime vraiment ça.
Non, mais tu sais, j'ai un ami qui est français qui est allé voir un match du côté de New York, un match des Bleus. Puis je sais qu'il est bi-équipe aussi. Là. Ça fait tellement longtemps qu'il est au Canada. Puis tu sais, il n'avait jamais eu l'opportunité de prendre pour le Canada au soccer. Fait que là, pour lui, c'est comme « wow, c'est donc bien le fun ».
Ben, est-ce que c'est quelque chose qui est courant chez les autres nationalités ou c'est parce que le Canada, on est tellement néophyte encore dans la Coupe du monde que là, les gens se permettent d'être encore pour leur ancienne équipe, mais un peu pour le Canada, ou quelqu'un qui est né au Mexique, mais qui déménage au Portugal va être bi-équipe aussi? C'est-tu quelque chose qui est standard, ça? Ou...
Bien, par exemple, je vais prendre un exemple vraiment précis. La Tunisie a eu un très mauvais parcours en Coupe du monde. Ils ont même congédié leur entraîneur après le premier match.
C'est vrai, hein?
Mais beaucoup de Tunisiens disent, bah, c'est pas grave, de toute façon, il y a la France. Moi, je suis plus la France qu'autre chose.
Okay.
Parce que la France est cosmopolite. Il va y avoir des Tunisiens, il va y avoir le Maghreb
vrai.
Va être représenté aussi. Dans la France, c'est une image, c'est un miroir de la France.
Le Canada a quasiment la même chose aussi, le côté très cosmopolite. Quand tu vois l'équipe versus d'autres pays où, c'est drôle, c'est mon père qui disait ça. Il dit, quand tu les vois, les équipes, il y en a qu'il va y avoir de tout, puis il y en a d'autres, c'est très typé, là. Tu les reconnais.
Oui.
Absolument. Puis justement, ça, d'être bi-équipe, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que j'espère que le Canada se rende loin pour pouvoir donner la piqûre aux gens. Parce que plus la piqûre est forte, dans 4 ans, là, les gens, à un moment donné, ils vont s'ennuyer de la Coupe du Monde, vont dire « Hey, c'est quand la Coupe du Monde? » Et c'est quelque chose qui n'arrivait pas jusqu'ici.
Crois-tu au fait que le Canada puisse continuer à avancer ou avec le match de dimanche, on est déjà un peu au-dessus de nos têtes?
On peut avancer. Le match de dimanche, là, on était supposé, théoriquement, on allait jouer contre la Corée du Sud. Et la Corée du Sud s'est faite battre par l'Afrique du Sud, qui avait eu un très mauvais début de parcours. L'Afrique du Sud, c'est une surprise qui se retrouve pour dimanche. Donc, oui, c'est une équipe qui est prenable, mais c'est une équipe qui a été capable de faire face à l'adversité. Et donc, il ne faut pas les prendre à la légère, mais c'est une équipe qui est accessible pour le Canada.
Vu le match qui s'en vient dimanche, l'attitude dans le vestiaire de l'équipe du Canada est comment par rapport au dernier match contre la Suisse? Parce que moi, ce match-là terminé, puis j'étais excessivement fier qu'on se soit tenu debout, puis parce que ça aurait pu finir 4-0 ce match-là, tu sais, avec ce qu'on avait sur papier, mais que ça finisse 2-1 avec la fin de match qu'on a eue en plus où le Canada a vraiment bourdonné beaucoup autour du filet de la Suisse. Du côté canadien, on est content ou on a une crainte? Comment on se sent dans le vestiaire?
Moi, comme fan, je trouve que cette résilience-là et cette capacité à faire face à l'adversité est vraiment intéressante parce que si tu perds 2-0, tu es en train de perdre 2-0 en début de la deuxième, tu n'as pas la mi-temps pour changer la tactique. Tu es en train de perdre 2-0 quand c'était 0-0, quand tu as embarqué en deuxième, demi. Normalement, il y a beaucoup d'équipes qui s'affaissent, qui ont peur, qui stressent. Le Canada, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais ils se sont dit, nous, on va se battre jusqu'à la fin. Et ça aurait pu finir 2-2, finalement.
Ben oui.
Fait que le vestiaire, je le sens heureux, uni. Je sens qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver. Et dans toute cette triste malchance qu'a été la blessure de Koné,
ouais.
Je trouve que l'équipe est plus unie qu'elle l'était au début de la Coupe du Monde.
Tu as parlé de Koné, puis je me permets de te poser la question parce qu'on en a parlé de ça lors de ton passage ici à Boulevard il y a quelques semaines. Mais j'aimerais ça que tu nous résumes un peu l'histoire de ce gars-là puis comment il s'est retrouvé chez les pros. Parce que c'est quand même vraiment une belle histoire que peut-être peu de gens connaissent parce que là, plusieurs nouveaux amateurs de soccer. Mais comment un Koné s'est retrouvé à jouer en Ligue professionnelle et là, représenter le Canada aujourd'hui?
Mais c'est une magnifique histoire, oui, parce que c'est quelqu'un qui a joué dans les rangs amateurs pendant très longtemps jusqu'à ce que le CF Montréal fasse mais qui est
ce gars-là?
Ce gars-là,
ouais.
T'sais, puis là, ils l'ont fait jouer en un an et demi. Lui, il a joué son premier match pour le CF Montréal. Le mois suivant, il jouait son premier match pour le Canada. Et un an et demi après, là, tout le début de cette aventure-là, il était en championship en Angleterre, jouer pour Watford et valoir plus que 10 millions de dollars canadiens. Là. Mais c'est un joueur qui était complètement hors du radar. Puis ça, c'est un bon exemple, c'est une bonne histoire pour expliquer pourquoi c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui avec le soccer au Québec. Parce qu'en 2025, là, on a tout restructuré les ligues qui était, c'était un peu un chaos,
mm-hmm.
parce que la nature a horreur du vide, donc on s'organise comme on peut. Le soccer est un sport super populaire au Québec pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est pas cher.
Abordable,
donc,
oui.
Donc, comme c'est abordable, on inscrit nos enfants là-dedans, mais finalement, on aime ça. Finalement, on se développe, on est meilleur. Puis, il y avait, en 2024, 200 000 athlètes amateurs au Québec, gars, filles qui jouaient au soccer.
Qui jouaient au soccer.
Et c'était déstructuré. Tout le monde faisait du mieux. Chaque région se structurait à sa façon. Mais là, depuis 2025, on a créé une pyramide où le parcours d'un joueur et d'une joueuse est linéaire. On sait vers où on s'en va et on sait où trouver les joueurs et les joueuses. Fait qu'on n'a pas d'histoire. Moi, je crois que d'ici quelques années, on n'aura plus d'histoire où on a échappé des gens puis qu'on n'a pas vu des gens qui jouaient à côté du stade, puis qu'on est allé chercher, mettons, un joueur en Amérique du Sud pour très cher, quand on avait Ismaël Koné qui jouait dans un parc à Longueuil.
Ben, parce que, tu sais, j'ai l'impression que, puis je veux que ça soit bien interprété encore là ce que je vais dire, mais une histoire comme celle de Koné ici au Canada, j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire chez les pros dans n'importe quel sport qui peut arriver dans des pays plus défavorisés? Ou est-ce que le kid va jouer dans...
Il n'y a pas eu d'opportunité avant, peut-être.
Il va jouer dans une ruelle, c'est ça. Puis il est super bon, il est vraiment talentueux, mais il n'a pas eu la chance au niveau académique parce que ses parents n'avaient pas les sous pour l'envoyer au collège ou à l'université. Puis là, on est passé à côté, mais il ne faudrait pas qu'on échappe le prochain ou la prochaine qu'on ait non plus, tu sais.
Non, mais souvent, dans tous les pays où le soccer a une grande importance, ce qui est intéressant, c'est que le soccer, souvent, c'est une structure. C'est quelque chose de très structuré.
C'est mieux fait
qu'ici, aime, les joueurs qui jouaient dans la ruelle. Ouais. Puis que ces histoires-là, il en pleut au Brésil. Là, des gars comme Rivaldo, un ancien grand joueur brésilien qui venait d'un endroit super pauvre au Brésil, puis là, il est devenu super riche. Il a fait un gros bloc d'immeubles pour loger tout le monde de son village, tu sais.
Il y a des belles histoires.
Ouais, c'est des histoires assez géniales au soccer, justement, vu que tu as juste besoin d'un ballon et de 4 briques pour faire les buts.
Oui.
Là. Tu peux te développer.
C'est ça. Puis souvent, on parle aussi de... Ça prend des souliers, mais il y a bien des endroits où est-ce que des fois, tu peux jouer même nu-pied quand tu commences aussi au soccer, au foot. En finissant, Andy, j'aurais envie de t'entendre sur la prochaine ronde. Ce qui nous attend, si tu avais une espèce de top 3 à nous faire de ce qu'il y a à surveiller, parce que moi, j'ai regardé un des matchs des Bleus, justement, de la France, avant le match du Canada contre la Suisse mercredi dernier. Un des matchs de soccer les plus excitants que j'ai regardé dans ma vie. Ça a tellement brassé. Les Français sont tellement rapides sur le terrain. C'est des passes. Ils roulent la balle. C'est incroyable à voir aller. Fait que les gens qui s'intéressent là, au soccer, peut-être pour la première fois, on suit le Canada, c'est sûr, mais dans les autres matchs, qu'est-ce qu'on a sous le radar?
Bien là, par exemple, dans une minute, c'est la France contre la Norvège. Puis ça va être un gros clash. Là. On parle de rapidité de jeu. Là, où on va avoir deux équipes super rapides. C'est Mbappé contre Haaland. Haaland est sur le banc pour commencer ce match-ci, mais je suis convaincu qu'il va rentrer à un moment donné.
Parce que là, on est encore dans les phases de groupe. Là. On n'est pas encore dans les finales. Fait qu'il y a peut-être encore des choses qui peuvent se jouer à ce moment-ci où il n'y aura pas de surprise. Ceux qu'on savait qui seraient en 16e de finale sont déjà là.
Exactement. Il reste la moitié des groupes à décider. Il y a des matchs aujourd'hui, des matchs demain. Dimanche, on commence la ronde éliminatoire. Du côté du Canada, on sait qu'on va jouer contre l'Afrique du Sud et on sait qu'on va jouer contre le gagnant du match Pays-Bas.